Amis de Radio Silence, bonjour. Cette musique qui débute comme ça, c'est pour rendre hommage au musicien Manu Dibango, musicien camerounais qui est mort récemment dans ce Covid-19 qui arrache un peu tout le monde comme ça à la vie, sans que, comment dirais-je, de façon anonyme. Voilà, tout le monde est mélangé, tout le monde meurt, et à l'heure de la mort, il n'y a plus de stars, il n'y a plus comment dirais-je, de VIP, et c'est assez dommage parce que le musicien Manu Dibango, c'était quand même quelqu'un de grand, de très connu, et il meurt emporté par la pandémie, fausse pandémie, au moment le plus, comment dirais-je, le plus inopportun, parce qu'à ce moment-là, c'était la grosse panique. La grosse panique, on voit très bien que toutes les choses retombent à plat. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Il y a eu tout un débat, hein, pour ou contre le confinement, pour ou contre le choix entre la santé, la préservation de la vie de ceux qui sont les plus âgés ou pas d'ailleurs, et faire tourner, je ne sais pas pourquoi on réduit ça d'ailleurs à l'économie, mais ce n'est pas l'économie. Ce qui est un malentendu formidable dans cette affaire, il y a la vie qu'on oppose à la mort, et puis sur le plan médical, bien évidemment, et puis il y a la vie. Qui est plus que le médical. Alors moi, j'ai suivi un philosophe, ça doit être Monsieur Comte, enfin son nom arrive et puis ça part, je vous mettrai en lien. Il disait très bien cette chose-là, il était confronté à un médecin au cours d'un débat, et il disait très bien que autant la médecine fait partie de la vie, autant la vie, c'est plus que la médecine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'économie, il y a aussi d'autres choses. Bon, moi personnellement, j'étais contre le confinement. Je me réjouis de ce que beaucoup de. Pas beaucoup, des gens sont. Enfin, ceux qui étaient contre le confinement finissent par être entendus après que, bon, les choses aient été décidées ainsi, qu'il y aurait confinement. Fallait-il ou pas confinement? Moi, je dis non. D'autres personnes qui ont ce qu'on appelle les gens qui reposent, enfin qui réfléchissent de façon un peu plus reposée, sans être comme ça là, pris dans le feu de l'action, ou alors pour jouer le politiquement correct, ou bien pour jouer les moutons. Ces gens-là ont dit, ils disent en ce moment, au vu des statistiques, pas seulement, parce que les statistiques servent ici à corroborer ce qui avait été pressenti et que les autres n'écoutaient pas, qui corrobore le fait que, effectivement, il n'y a pas eu plus de morts chez ceux qui n'ont pas confiné que chez ceux qui ont confiné. Et si de temps en temps il y a quelque chose, un petit plus, ce serait ce qu'on appelle la marge d'erreur. La marge d'erreur, c'est-à-dire en termes scientifiques, bon, ce n'est pas vraiment significatif. Alors pourquoi se pose. Donc un chercheur s'est posé la question, pas un chercheur, un article que j'ai repris, c'est un chercheur forcément, du Rand Paul Institute, qui pose très bien la question de savoir pourquoi les gens. Se sont d'abord soumis de cette façon-là. Cette question m'intéresse. Et ils se demandent pourquoi le collectif constitué de politiques, de médias occidentaux, de l'OMS, bien sûr, et de plusieurs gourous chargés de disséminer la peur. On pense, vous savez, à tous ces milliardaires devenus philanthropes qui ont toujours leur mot à dire pourquoi. Ils se sont tous ralliés sous le cri du confinement, 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 et de l'exagération de l'épidémie qui finalement n'est pas plus qu'une grippe très sévère d'après les statistiques et a tué à peine un peu plus que ce que le nombre de décès qu'on déplore tous les ans du fait de la grippe. Pourquoi la question vraiment, elle devient pour le coup politique, parce qu'on est depuis longtemps, on s'est éloigné depuis longtemps d'ailleurs avec cette histoire de confinement, des rivages de la santé publique. Tant et si bien que, je vais prendre trois exemples. D'abord, l'OMS est apparue comme l'organisation internationale qui se préoccupe moins de santé et plus de vaccins, de campagnes de vaccination, c'est-à-dire d'enrichir certains, les groupes pharmaceutiques, qui sont d'ailleurs financés par les mêmes milliardaires philanthropes, vous voyez, et au point que l'OMS a conseillé de venir commencer les vaccins en Afrique, incroyable. En Afrique, heureusement, l'Afrique a été préservée cette fois-ci. Un stand a été monté en Côte d'Ivoire et démonté illico presto par la population qui se sont dit, écoutez, si on se réfère au nombre de morts, il faut commencer les vaccins en Europe et en Occident, pas en Côte d'Ivoire. Mais M. Macron a décidé que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, allaient être le terrain d'expérimentation des vaccins contre le Covid-19. Pardon. Sur le plan diplomatique, cette crise montre beaucoup de choses, quoi. Une diplomatie de l'argent, ça fait un peu peur. Alors, pourquoi les politiques et tout le groupe précité là se mettent ensemble pour gérer cette pandémie? D'abord, il se trouve que d'après les chercheurs, le fait d'avoir hésité avant le confinement n'a pas eu d'incidence particulière. Mais plus que ça, on a, la récupération, voilà, du Covid-19. Notamment aux États-Unis, qui est absolument extraordinaire parce qu'on a eu un duel à distance entre le gouverneur de New York, M. Cuomo, et le président Trump. Alors, le président Trump voulait, après avoir constaté que les gens mouraient, mais ça n'atteignait pas les chiffres très, très, très inquiétants annoncés dès le départ, après tout ce constat-là, il s'est dit. Il faut déconfiner parce que il se trouve que les gens sont au chômage massif. Il se trouve que l'économie est très grippée, en très mauvais état. Tout cela fait que après on se pose des questions quand même. Il se trouve que les gens sont mal à l'aise dans le confinement parce que ça crée de l'alcoolisme, ça crée des violences conjugales qui font qu'il y a des gens qui vont demander des divorces, ça crée tout un ensemble de déséquilibres, l'alcoolisme, et puis bon, l'être humain n'est pas fait pour être confiné. Alors, toutes ces questions posées, il y a d'ailleurs des villes qui ont commencé à se révolter, où on s'est dit, attendez, autant peut-être à New York, on aurait pu confiner parce que du fait de la densité de la population, du fait du transport de métro. Peut-être New York confiné un peu, encore que ça se discute, parce que de l'autre côté, on peut faire des testings, on peut faire. Il y avait des alternatives. Pourquoi, si New York peut confiner, pourquoi des petites villes comme le Wisconsin, où il y avait très peu de cas avérés, pourquoi ils iraient confiner pareil? Donc il y a eu une panique, et puis un manque de discernement, un manque de. Il y a l'effet de surprise, mais vous verrez plus tard pourquoi cela arrive. Pourquoi? Donc du coup, il y a une récupération politique qui s'est fait au niveau du maire de New York, enfin du gouverneur de New York, qui s'oppose. D'abord, il dit que pour le déconfinement, c'est lui qui prend la décision, c'est eux les gouverneurs, c'est pas le président, premier couac. Deuxièmement, dont le président recule un peu pour laisser la place, et puis deuxièmement, Ce gouverneur devient donc une star, une sorte de président bis, à la limite même s'il voulait prendre la place du président, puisque tout s'est concentré sur New York. New York représente à peu près la moitié des morts aux États-Unis. Tous les jours, il faisait lui aussi une conférence de presse pour un état des lieux. Cette confrontation à distance, Washington-New York, était devenue très malsaine parce qu'on ne sait plus entre celui qui gère vraiment le gros de l'épidémie, c'est-à-dire le gouverneur, et le président qui parle à distance, qui est le plus sur le front. Effectivement, on dirait que c'était le gouverneur qui était plus au front. Et ça mettait M. Trump dans une situation délicate, d'autant plus que tous les journalistes qui sont pro-démocrates venaient justement en rajouter. Vous voyez, ça, la question du Covid-19 est une question éminemment politique, plus politique d'ailleurs que sanitaire. Il y a cette histoire qui était absolument troublante. Alors que faire, que faire? Ben, heureusement, les populations ont commencé à sortir pour manifester un peu. La distance aidant, enfin la distance avec la distance par rapport au pic de la pandémie, on peut déjà tirer des conclusions comme ça sur la récupération politique de ce phénomène et voir aussi peut-être là dans cette histoire-là ce que j'appelle la féminisation de la société. La féminisation de la société aujourd'hui, ben ça c'est la société globale, hein, qui fait que, d'abord ce sont les femmes que vous voyez beaucoup hein, dans le journalisme, là, hein, c'est une profession totalement féminisée. Et la féminisation arrive parce que devant une situation, un président, alors que tout le monde est en train de dire confinement, fermeture des frontières, un président ne peut pas dire non, moi, je fais autrement. Vous voyez? Parce que là, ça devient viril. Il y a une dévirilisation de la société. En revanche, cette dévirilisation se traduit par, j'allais dire l'autre côté, un excès de virilité de la part des philanthropes milliardaires, justement, qui sont pour l'eugénisme et qui sont pour des campagnes de vaccination, qui sont pour profiter des pandémies et des événements comme ceux-ci, qu'ils pourraient d'ailleurs créer, on soupçonne cela, pour se faire de l'argent de façon totalement vicieuse. Sans cœur, sans pitié. Alors le politique, il navigue entre les deux extrêmes aujourd'hui. Il peut pas être le véreux, hein, ça dit sans pitié comme ça va pas le faire. Et il va tomber dans la féminisation, devenir une femme. Mais enfin, la femme aujourd'hui, c'est quoi? C'est un peu l'esclave de l'homme. Comprenez? Donc le président, il fait quoi? Il faut qu'il trouve une zone limite parce que Cuomo, lui, l'a carrément, le gouverneur de New York, l'a carrément joué. Très vicieux là comme ça et pour lui il a d'ailleurs dit que il s'occupait de la santé des gens parce que quand ils arrivent le Covid-10 égale la mort donc lui il est là pour donner la vie et, vous voyez la perversion il est là pour donner la vie et parce que le Covid-19 c'est la mort. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est asséné comme ça, Covid-19 égale la mort, donc moi je suis là comme le garant, celui qui va empêcher le peuple américain de mourir. Donc dans ce duel, Cuomo qui dit moi, je suis voilà le général au front, j'empêche un peu mes soldats de mon peuple de mourir. Le président évidemment il est en défaut, il est mal placé parce que lui il est plutôt dans le déconfinement, donc ce serait celui qui ouvre à la mort. C'est incroyable quoi cette perversion là. Enfin, le président se trouve en porte-à-faux. Alors qu'il veut redonner la vie à tous les Américains, le gouverneur de New York fait comme si l'Amérique s'est résumée à New York. Le Covid-19 égale la mort. C'est faux. Il y a eu beaucoup de guéris. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils ont adopté des protocoles assez alambiqués. S'ils avaient adopté le protocole simple que le professeur Raoul leur conseillait déjà au début, on n'en arrivait pas là. Mais c'était une course à l'argent. Perverti par la course à l'argent. et c'est fort de café de voir que donc on ramène la vie au sanitaire uniquement. Travailler, ce n'est plus la vie. Faire autre chose que travailler aussi, ce n'est plus la vie. Sortir, se balader, ce n'est plus la vie. Trouver un équilibre psychosomatique, ce n'est plus la vie. S'épanouir, ce n'est plus la vie. Alors ils vous disent que non, c'est pour un certain temps, ça ne va pas durer. Ça, c'est un argument quasi fallacieux parce qu'après le Covid-19, autant si on a pu le maîtriser maintenant, en limitant la contamination, autant on pouvait le faire. Sinon, qu'est-ce que je veux dire, si on n'avait pas maîtrisé là maintenant, on n'aurait pas pu le maîtriser autrement. Donc, voilà, M. Trump a des sondages qui sont en baisse parce que justement, on lui a raflé la mise, on lui a volé la vedette dans cette affaire. Et nous avons aussi une société. Alors, pour le coup, la féminisation, c'est quoi la société? Les hommes ont peur de mourir. Les hommes ont peur du moindre danger. Avant, on avait des hommes d'État. Le général de Gaulle, il aurait réfléchi, il aurait fait autrement, il aurait pris une décision ferme. Mais non, on ne peut plus, parce que sinon, la féminisation, la société vous empêche de prendre ces décisions qui sont en rupture avec la norme collective, souvent paresseuse, et en rupture avec... la pensée unique, justement, parce que si les autres le font, si moi je fais différemment, ça va pas aller, on va me critiquer. Et en rupture avec cette forme de perversité de l'emballement médiatique qui pose vraiment des problèmes pour les prochains présidents qui devront être plus lucides que cela et pouvoir quand même pas se distinguer pour se distinguer, mais réfléchir un peu quand même au-delà de l'emballement de beaucoup de choses telles que les médias, telles que la panique des hommes aujourd'hui tout à fait efféminisés, comment je vais dire, voyez, je ne vais pas parler l'homosexualité, ça va nous fâcher, mais laissons ça de côté. Je vais terminer par... L'Afrique, dans tout cela, moi je suis totalement désolé pour l'Afrique parce que je vois que si l'Occident arrête les avions, par exemple, l'Afrique ne peut pas trouver le moyen de communiquer déjà au sein de l'Union africaine, alors qu'on n'était pas en catastrophe, on n'a rien, on n'a pas d'avion. Je me rends compte que l'Afrique n'a rien, que l'Afrique est plus que dépendante de l'Occident. Je vois que, comment dirais-je, au niveau de la technologie ici, où je suis au Cameroun en ce moment, on est complètement dépendant. Il y a MTN, il y a Orange, il y a Nextel accessoirement, il y a PAD qui font la téléphonie mobile, tout un beurre et un business incroyable. C'est la rivière argentée ici. On n'a pas d'opérateur téléphonique, on n'a pas de... Après, on a une agence de régulation des télécoms. Lesquels télécoms? Tout est géré, la technologie est gérée par l'étranger. Les multinationales, l'électricité, l'énergie, c'est l'étranger. Les téléphones, c'est l'étranger. Mais tout, c'est l'étranger. Alors c'est quand ça s'arrête comme ça qu'on regarde tout ça. On est ici à la merci d'un groupe multinational qui s'appelle Eneo, qui fait l'électricité, la pluie, le beau temps. On coupe tout le temps, on remet quand on veut, il n'y a aucun protocole. Il n'y a qu'ici en Afrique qu'on se permet ce genre de sauvagerie, de barbarie. Vous avez, bon, le rail n'existe plus parce que Bolloré, là-bas, c'est lui qui gère. Les routes, on appelle les Chinois. Les ponts, on appelle les Français. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que l'Africain sait faire finalement par lui-même? Je veux dire, cette crise du Covid, c'est un révèle comme ça. Le vide, le grand vide de l'absence de l'Afrique ne peut pas proposer aussi de l'alternative. Donc là, c'est encore une autre féminisation qui date de la colonisation ou de l'époque néocoloniale. Mais c'est très triste et c'est affligeant. Bien, le Covid-10, hein, voilà, hein, le Covid, je ne sais pas pourquoi j'appelle ça le Covid-10, le Covid-19, et puis oh, allez, on peut dire tout ce qu'on veut maintenant, c'est assez fatigant. Et ce Covid-19, il a fait bien des choses parce qu'on a aussi dit que du côté de l'Occident, la nature a repris ses droits. Bien, c'est une bonne chose. Moi, je suis assez halluciné par ce que je vois ici en Afrique. Bien. Amis des Radio Silence, c'était Elise Mbok, Flash sur le monde depuis Yaoundé, le Cameroun, où voilà, on n'a pas d'avion hein, pour revenir en France. Et on fait beaucoup de discours là-bas, le confinement le 11 mai, on verra bien. Et moi, je vous dis quoi? Je vous dis, vous avez écouté Flash sur le monde. Et surtout, je vous dis à bientôt.
When them ball a ticket, you're told, oh, Salabon.